Bien, alors je vais apporter un peu de complément à ce que j'avais raconté sur Sfirat HaOmer. Alors, on avait vu que le début, l'origine du à partir de laquelle on compte le jour et semaine, ce début était dit de deux manières. Il était dit sous la forme, c'est Mimochrata Shabbat, et puis aussi le premier jour, c'est Miyom Aviyachemet Omer. Le jour, donc, le lendemain du Shabbat, et le premier jour, c'est le jour où vous aurez amené le Korban Omer. Sur ce fameux Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, il y a évidemment un problème, c'est que le mot Shabbat, ici, pour nos Chachamim, il ne veut pas dire Shabbat, il veut dire Pessah. Et sur cette lecture-là des Chachamim, il y a eu une énorme discussion qui a duré des centaines d'années, en fait, avec ce qu'on appelle les Tzedoukim, les Sadducéens, qui eux ne reconnaissaient pas la Torah orale. Donc cette dracha, ils n'en étaient pas d'accord. Et eux, ils disaient, c'est écrit, Mimachorata Shabbat. De quel Shabbat? Ben, le Shabbat, le premier Shabbat après la fête de Pessah, ça sera le lendemain de ce Shabbat qu'on va commencer à compter. Donc, on commencera toujours à compter par un dimanche, et donc Shavuot sera toujours un dimanche. Et je vous avais dit juste en passant que cette opinion-là, cette façon de lire, elle a donné naissance chez les chrétiens au fameux dimanche de Pâques et dimanche de Pentecôte, en fait. Alors, pourquoi est-ce que c'est appelé Shabbat? Pourquoi est-ce que ce premier jour de la fête de Pessah est appelé Shabbat? Je vous avais dit que il fallait entendre entre Shabbat et Yom Tov que Shabbat était fermé parce qu'on ne peut pas inviter. Par contre, Yom Tov est ouvert, mais que le soir du Seder, c'est comme Shabbat puisqu'on ne peut pas inviter le soir du Seder quelqu'un. On parle ici de la situation qui existait lorsque on mangeait le Korban Pessah, on ne pouvait pas inviter en dernière minute quelqu'un. Il fallait l'avoir invité le Shabbat, le 14 dans l'après-midi. Et du coup, c'est quand même compliqué. C'est sûr que la lecture standard, c'est de dire que c'est le lendemain d'un Shabbat. Rachid dit, si c'était ça, on ne saurait pas de quel Shabbat il parle. C'est vrai, mais Machorot à Shabbat, on ne sait pas de quel. Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est justement cette ambiguïté que la Torah, elle a choisi de mettre dans cette désignation-là, parce que en fait, il y avait une façon très simple de présenter les choses en disant qu'on va compter à partir du 16 Nissan, qui est le lendemain du 15 Nissan. Et en fait, d'autres demandent, mais pourquoi on n'a pas dit simplement Mimachorat à Pessah, le lendemain du Pessah? C'est une question que Abraham Ibn Ezra pose, mais il fait remarquer que ce serait aussi ambigu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Pessah, dans la Torah, ce n'est pas le 15 Nissan. Pessah, c'est le 14. C'est-à-dire, Pessah, c'est quand on amène le Korban Pessah pour en faire la Shrita. On le désigne, mais ça, c'est le 15, c'est le 14. C'est pas le 15. Par conséquent, si on avait dit Mimachorat à Pessah, alors ce serait aussi ambigu et on penserait que faut compter à partir du premier jour de Pessah, à partir du 15. Le lendemain du Pessah, le lendemain du 14, c'est le 15. ça ne marcherait pas non plus. Donc, si on remplaçait Imacharat HaShabbat par Imacharat HaPesach, on est remplacé une ambiguïté par une autre. OK. Mais pourquoi pas le 16? Et pourquoi choisir cette formulation qui est une formulation ambiguë? Et on peut poser une deuxième question directement. C'est qu'effectivement, pourquoi donc est-ce que le compte ne commence pas le premier jour de Pessah? Pourquoi le compte commence le deuxième jour de Pessah? Le Chinuch, il dit que tout le compte, c'est une façon de créer un lien entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire, on veut créer un lien entre Pessah qui est Zman Cheruteinu, la fête de la liberté, et Shavuot, qui est la fête du don de la Torah. Donc, on veut créer un lien entre la liberté et la Torah. Alors, on avait déjà vu que que Shavuot, c'est le don de la Torah, et qu'on présente les louchot, en quelque sorte, le don des louchot, en disant que il n'y a de chérout que celui qui se conforme à ce qui est charout à la louchot. Sur les louchot, ce qu'Hachem a écrit, c'est gravé en réalité. Charout, ça veut dire gravé. Mais charout, c'est la même graphie que chérout. Chérout qui dit la liberté. Alors c'est un peu étonnant, parce que l'écriture gravée, c'est vraiment la forme la moins libre de l'écriture, d'écriture. Quand vous avez écrit sur la surface de quelque chose, vous pouvez effacer. Vous me direz, mais quand on a gravé, on peut aussi couper la tranche, couper dans la tranche le support pour enlever tout ce qui a été gravé. C'est vrai, mais dans les louchot, les louchot, elles sont gravées de part en part. Donc, il n'y a rien à enlever, il n'y a pas de différence entre le support et l'écriture. Donc, c'est vraiment l'écriture la plus figée qui soit. Et dire que, c'est presque une provocation, et dire qu'il n'y a de liberté que si on se conforme à ce qui est gravé de part en part, à quelque chose qui est, si on n'a pas comme référence ce qui est écrit dans le gravé de part en part, ça paraît un peu comme problématique, en fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire ici, c'est que on va créer ce lien entre la liberté et la Torah. Mais du coup, comme on commence qu'au deuxième jour, ça veut dire que le premier jour de Pessah, qui est Chag Cheruteinu, le Zman Cheruteinu, le temps de notre liberté, d'accord? On parle d'une liberté sans le lien avec la Torah. Donc, un jour qui est un jour de liberté, sans référence à la Torah, et à partir de ce moment-là, tous les autres jours de la fête de Pessah sont des jours qui sont Zman Cheruteinu, mais un Cherut qui est lié avec la Torah. Du coup, ça fait apparaître deux libertés, en quelque sorte. Ça fait apparaître la liberté du premier jour et la liberté des autres jours. Donc, une première liberté sans la Torah et ensuite une liberté avec la Torah qui va de plus en plus s'imprégner de Torah jusqu'à ce qu'on arrive au Sinaï. Donc, on parle d'une notion de liberté sans la Torah. Alors, premièrement, ça fait apparaître la liberté comme étant en deux temps, en quelque sorte. Il y a un premier temps sans la Torah et après avec la Torah. Donc on retrouve cette structure avec le deux, dont on a, je crois que je vous ai parlé de ça, d'accord, que tout fonctionne toujours avec du deux. D'accord, ça veut dire que la naissance du clan Israël, il y a deux naissances, au temps d'Abraham, puis ensuite au Sinaï. On avait vu, par exemple, que les mitzvot, je ne vais pas en répéter, mais les mitzvot, elles sont données en deux temps. Il y a d'abord une dizaine de mitzvot qui sont données à Mara, puis ensuite, toutes les mitzvot au Sinaï. Donc, si vous voulez, il y a toujours plein de choses qui n'arrivent que... Enfin, ça arrive toujours par deux, en réalité. Et là aussi, c'est le cas de la liberté. Et je crois que ça vient de ce que nous sommes dans le monde du deux. Nous vivons entièrement dans le monde du deux. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé un monde du deux. En tout cas, disons, quand il crée l'homme avec le deux, puisqu'il crée Zachar ou Nekeva. Même si on prend la version où ils sont créés, c'est un être qui est à la fois Zachar et Nekeva. Enfin, il y a deux éléments. C'est toujours du deux. Et pourquoi est-ce que Hachem présente les choses? Pourquoi il les présente en disant il faut que je fasse un Ezer Kenegdo à l'homme? Je veux pas qu'il soit tout seul. Pourquoi il faut pas qu'il soit tout seul? Parce que s'il est tout seul, on risque de le prendre pour Dieu. Les gens vont dire il est tout seul dans le monde d'en bas. Hachem est tout seul dans le monde d'en haut, donc lui, il a une divinité du monde d'en bas. Et donc, le 1, il pourrait, le 1 de ce monde-ci pourrait être ambigu, en fait. Donc, on est dans le monde du 2, mais il y aura le 1, ce sera seulement Bayomahou et Hachem Echad, Shmo Echad. Seulement la fin des temps. Jusque-là, on est dans le monde du deux. Et c'est ce qu'on voit ici. Tout se passe en deux temps. Et donc, il y a la liberté qui est la liberté de servir Hachem, la liberté sans la référence à la Torah est une liberté qui, en fait, est destructrice. Elle est destructrice et il y a une allusion au fait qu'elle est destructrice dans le fait que le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah est aussi le jour de la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc il y a ce lien de destruction lié à la liberté sans la Torah. Être libre, en fait, c'est être libre. Mais pour être quoi? Libre en... C'est être libre pour devenir ce qu'on a à devenir, ce qu'on a à devenir. C'est-à-dire être capable de devenir complètement ce qu'on est potentiellement, en fait. Sur cette idée que il y a cette différence que je vous ai dite entre Shabbat et Yom Tov, au sens où d'ouverture et de fermeture. Bien sûr qu'entre Shabbat et Yom Tov, il y a la différence qui se dit Ochel Nefesh, c'est-à-dire les mlachot qui sont interdits de Shabbat le sont également Yom Tov. Sauf que tout ce qui est nécessaire pour Yom Tov, peut être fait. Tout ce qui est nécessaire pour manger, Yom Tov, etc., pas seulement pour manger, on peut aussi porter, parce qu'on peut porter son marzor, on peut porter son mouchoir, etc., selon dont on a besoin pour Yom Tov. Yom Tov, l'avantage, comme on l'avait vu, c'est qu'on peut préparer, donc c'est ce qui a permis de dire que c'était ouvert par rapport à Shabbat qui était fermé. Mais on peut dire les choses un petit peu d'une autre manière, C'est un peu basé sur le Meshech Chochma. Le Shabbat, en réalité, n'a rien à voir avec nous. Nous, peuple juif, on n'a rien à voir avec le Shabbat. On a une mitzvah de pratiquer le Shabbat. Mais le Shabbat fait référence au Shabbat d'Hachem. Le Shabbat d'Hachem, c'est le Shabbat qu'Hachem a fait au moment de la création. Donc ça, au moment de la création, ça n'a rien à voir avec le clan Israël. Donc Shabbat, c'est quelque chose qui est indépendant du peuple juif, en fait. C'est quelque chose qui revient de façon régulière depuis la création du monde et qui continuerait même s'il n'y avait plus de peuple juif, en fait. C'est ça, c'est indépendant du peuple juif, en fait. Yom Tov, au contraire, c'est complètement dépendant du peuple juif, en fait. On a reçu, alors qu'on était encore esclaves en Égypte, on a reçu cette fameuse mitzvah de définir le temps. Définir le temps, c'est-à-dire, on a un calendrier nouveau qui commence maintenant au printemps, au mois de Nissan, comme moi, et c'est un calendrier lunaire qu'on corrige de temps en temps pour rattraper l'évolution de la nature. De temps en temps, on a une année avec 13 mois, cette fois en 19 ans, à peu près. Donc, on a quelque chose qui, un calendrier qui est, ce calendrier, il est défini de la manière suivante. C'est un calendrier lunaire. Mais comment est-ce qu'on définit un nouveau mois? Comment on sait qu'on a passé d'un mois à un nouveau mois? Si quelqu'un voit la nouvelle lune, il prend tous les moyens de locomotion, y compris Shabbat d'ailleurs, et il va à Yerushalayim. Et quand il arrive à Yerushalayim, il va au Sanhedrin, au grand Beit Din. Et quand il y a deux personnes qui viennent et qui disent « Nous avons vu la lune », alors on va les examiner pour voir s'ils n'ont pas confondu le croissant de lune avec un petit nuage. Et comme on sait très bien calculer quand la lune est visible, donc on vérifie que c'est vraiment possible ce qu'ils disent. Et une fois qu'on a vérifié, alors le président du Sanhédrin proclame le nouveau mois. C'est lui qui dit « Mekoudash », le nouveau mois est sanctifié. Et c'est ça, c'est cette proclamation qui fabrique le nouveau mois. Donc en réalité, nous, on ne fait pas Pessah, Sukkot, Yom Kippour, etc., le 15 ou le 10 du mois, etc. Ce n'est pas le calendrier qui nous dit. Calendrier, on connaît la formule. On sait exactement quand la nouvelle lune revient. On peut calculer ça jusqu'à l'an 153 455. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce chiffre. Ouais. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que le nouveau mois a été validé en quelque sorte, décidé par le Sanhédrin. Vous me dites, mais comment on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus de Sanhédrin. Alors voilà ce qui s'est passé. À une certaine époque, quand les Chachamim ont compris qu'on n'arriverait plus pour des raisons de galoute, pour des raisons de guerre, etc., on n'arriverait plus à sanctifier le mois avec un Sanhédrin, etc., qui allait disparaître et tout. Alors, ils ont décidé, à ce moment-là, qu'ils allaient sanctifier, donc, eux qui sont un Beit Din sanctif, qui est capable de sanctifier, ils allaient sanctifier tous les mois à venir jusqu'à l'an 6000. Pourquoi 100 000, 6000? Parce qu'ils ont pensé que d'ici là, le Mashiach serait là. Mais ça veut dire que si jamais le Mashiach ne venait pas d'ici l'an 6000, on n'aurait plus de, il n'y aurait plus de calendrier. Il n'y aurait plus de Yom Tov. Il n'y aurait ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot. Il y aurait Shabbat. A priori. Ils n'ont pas sanctifié, et nous, on n'est pas capable de sanctifier. Donc, il n'y aurait pas ce fait-là. Alors, est-ce que les rabbins de l'époque, si jamais ça arrivait, ils décideraient qu'on va faire des fêtes comme si c'était sanctifié, je sais pas, on ne ferait peut-être pas les brachot avec Hachem, je ne sais pas comment on ferait d'ailleurs. Mais bon, on a le droit de jeûner, on pourrait... Enfin, on pourrait faire les choses, mais elles n'auraient pas la dimension du tout. C'est pas, ce ne serait pas Yom Tov. Par conséquent, la grande différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Yom Tov a à voir avec le peuple juif, en fait. Parce que toutes ces fêtes, elles sont liées à des événements auxquels le peuple a participé. Et on peut dire, d'une certaine façon, que toutes ces fêtes-là n'existent que parce que nous existons. S'il n'y a pas de Klal Israël, il n'y a pas de Moadim. C'est des rendez-vous avec le Klal Israël. S'il n'existe pas, il n'y a pas de rendez-vous. Toutes les fêtes, Shavuot par exemple, le Klal Israël a travaillé pour cette fête de Shavuot. On a travaillé pendant 49 jours, on a gravi les échelons petit à petit pour s'approcher, pour devenir un peuple susceptible d'entendre la parole d'Hachem et de donc recevoir les nouvelles mitzvot, recevoir les mitzvot. À Sukkot, c'est après qu'on ait fait tshuva sur le veau d'or, qu'Hachem nous ait pardonné. Yom Kippour, c'est le jour où effectivement le pardon est concret. Rosh Hashanah, c'est un peu problématique, mais on va laisser Rosh Hashanah de côté. Toutes ces fêtes, on a fait quelque chose, à l'exception de Pessah. À Pessah, on n'a rien fait. Pessah, c'est Itaharuta de Leila, c'est l'éveil d'en haut. À Pessah, on n'a rien fait, on ne méritait pas du tout de sortir d'Égypte. Hachem nous a donné artificiellement deux mitzvot pour qu'on sorte, mais on ne méritait pas de sortir. Et même quand on est sorti, on était encore un peu idolâtre. Et donc, Pessah, d'une certaine manière, toutes les fêtes elles sont là grâce, en quelque sorte, à un travail qui les mérite, qui fait que les Bnei Israël méritent ces fêtes. Pessah, non. Pessah, c'est un don d'Hachem, complètement gratuit au sens où on n'a pas travaillé pour. Et en cela, Pessah est un peu comme Shabbat. Shabbat, on a le Shabbat, mais on n'y a rien fait, on est pour rien. Ça. Alors, on pourrait dire que Pessah, c'est un peu la fête la plus shabbatique des fêtes. Parce que comme Shabbat, elle n'est pas en lien direct avec le Klal Israël, au sens où le Klal Israël aurait fait quelque chose pour mériter cette... Mais on n'a rien fait pour avoir le Shabbat. C'est un chesed qu'Hachem nous a donné. On voit dans les Midrashim qu'Hachem dit, voilà, j'ai quelque chose d'extrêmement précieux, je vais vous le donner, c'est Shabbat. Là aussi, il nous a donné Pessah, en fait, bien qu'on ne le mérite pas. Et donc, c'est ça qui pourrait justifier qu'on nomme Pessah Shabbat. Parce que c'est un moed, mais qui ressemble beaucoup à Shabbat dans la mesure où on n'a rien fait pour, en quelque sorte. C'est une autre façon de présenter les choses. Du Corban de Homer. Vous vous souvenez, Corban, avec de la matière presque brute, la nourriture animale, etc. Par opposition au korban de Shavuot qui est jeté à l'echem, qui sont deux pains, qui sont du blé, nourriture humaine, qui sont même du chametz, parce que quand on reçoit la Torah, on peut gérer le chametz, qui est le yetzerara, qui est quelque chose d'absolument nécessaire. On ne peut pas l'éradiquer complètement, sinon le monde ne fonctionne pas, mais il faut pouvoir le gérer. Et la Torah est présentée comme étant l'épice qui va nous permettre de rendre le yetzerara comestible. Donc, c'est ça la situation. On a passé de l'un à l'autre, progressivement, avec ces différentes 49 étapes, on est monté progressivement. Alors, ces deux offrandes, ces deux corbanes végétaux, en quelque sorte, elles ont ceci en commun, que ce sont tous les deux des matirim. C'est-à-dire, ces offrandes-là, elles permettent quelque chose. Le korban omer, qu'on amène, il permet de consommer la nouvelle récolte. C'est-à-dire qu'à partir du omer, c'est-à-dire du matin du deuxième jour de Pessah, qu'on aura approché le korban omer, on pourra maintenant consommer la farine, enfin consommer les céréales, quelles qu'elles soient, de la nouvelle récolte. A priori, ce qu'on aura, c'est surtout de l'orge, parce que le reste n'est pas encore vraiment mûr, mais si ça se trouvait que c'était déjà mûr, on pourrait le manger. Mais ça, c'est vrai seulement pour l'usage de monsieur et madame tout le monde. Mais on ne peut pas apporter un korban végétal, c'est-à-dire une crêpe ou des menachot, quoi, si vous voulez, on ne peut pas les approcher au Beit HaMikdash avec la nouvelle farine. Pour pouvoir amener des korbanot, des menachot, avec la nouvelle farine, il faut attendre qu'on ait amené les jeté alechem. Jeté alechem, c'est le matir de la nouvelle récolte sur le misbeach. On peut bien voir les deux choses. Ça veut dire que le matir de la nouvelle récolte pour monsieur tout le monde, si vous voulez, il vient avec au début du décompte, en quelque sorte. On commence par, OK, une fois qu'on est sorti d'Égypte, le premier jour, on est sorti d'Égypte, en fait, et le premier jour étant passé, le lendemain, on peut apporter ce korban. Nous qui n'avons pas on n'approche pas le korban, alors les chachamim ont dit qu'il faut attendre le 17. On ne peut pas utiliser la nouvelle farine, ça s'appelle chadash, on peut dire nouveau, on ne peut pas utiliser la nouvelle farine avant le 17, c'est-à-dire le troisième jour de Pessah. Donc c'est un matir pour la liberté qui entrevoit un peu on commence à voir le lien avec la Torah, mais de très loin, on est c'est les premiers jours en fait. Miladin, c'est vraiment le premier jour. Et par conséquent, c'est encore assez lointain, mais on est déjà dans le nouveau. C'est une nouvelle nourriture pour un peuple qui est nouveau, qui arrive dans l'histoire, quoi. C'est son premier jour complet. Parce que le premier jour de Pessah, il est, bien sûr que la nuit c'était déjà Pessah, mais on parle de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, on parle de ce qui s'est passé entre le 14 et le 15. Le korban de Pessah, comme je vous ai dit, en fait, le mot Pessah, c'est le 14 dans la Torah. C'est pas le 15. Et donc, on comprend bien que on a un nouveau peuple et là donc il a une nouvelle nourriture. Il a une nourriture qui est la nouvelle récolte. C'est un nouveau monde. Tout est nouveau pour le clan d'Israël. Mais avec ça, on peut pas encore, on n'est pas encore au niveau où on pourrait servir Hachem avec la nouvelle récolte. On pourrait dire, on peut pas encore servir Hachem avec la nouvelle récolte parce qu'on est encore trop influencé, disons, pour le dire joliment, influencé par l'idolâtrie. Par contre, quand on va arriver à Shavuot, une fois qu'on aura apporté le korban de Shavuot, le matin, on va apporter le jeté alechem avec les principes, etc. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser sur le misbeach, d'accord, puisqu'on a reçu la Torah, c'est le jour du don de la Torah, donc on est vraiment au niveau où on doit être. D'accord, on a reçu la Torah, on est presque parfait à ce moment-là. On va se recasser la figure, mais on est quasiment parfait. D'accord, n'oubliez pas que quand on est au Sinaï, qu'on reçoit la Torah, on est redevenu immortel. On se retrouve dans la position d'Adam Arishon avant la faute. Donc, on est à un niveau incroyable. Alors, on peut servir Hachem avec la nouvelle récolte. Donc, on voit très bien que on est complètement en phase avec la nature aussi, dans cette évolution spirituelle. C'est toujours comme ça. La Torah, elle veut qu'on soit en phase. Elle veut qu'il y ait justement ces deux choses en même temps. On veut bien que Pessah soit Chag HaAviv. Durant cette période de l'Homère, on a une période où on se conduit comme se conduisent les gens qui sont en deuil. Alors, une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a cette conduite de deuil, c'est que, à cette époque, il y a eu une tragédie incompréhensible, en fait. Quelque chose qui, on arrive, c'est difficile de comprendre ce que ça représente vraiment. Le grand maître de la Torah chez Baal Peh, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'était Moshe Rabbeinu pour la Torah chez Birtav, c'est Rabbi Akiva pour la Torah chez Baal Peh. Rabbi Akiva, qui est quelqu'un qui a commencé à étudier très tard, soutenu par sa femme, etc., qui a eu des conditions matérielles très très difficiles, mais il est devenu le grand maître, le grand grand maître de la Torah chez Baal Peh. Et il a, disons ce qu'on dirait aujourd'hui, il a une yeshiva, il a des talmidim, il a énormément de talmidim. Il a des talmidim sur tout Eretz Israël en vérité. Et il a 12 000 pères de Talmidim. Pourquoi on les présente en tant que pères? Pourquoi on ne dit pas 24 000? Parce que la Torah, ça s'étudie à deux, essentiellement. Donc, c'est des binômes, bon, gens qui étudient la Torah, deux par deux. Donc, vous imaginez, c'est la crème de la crème des élèves. Pour arriver pour être à la hauteur de l'enseignement de Rabbi Akiva, ils ont déjà passé par toutes les autres yeshivot. Celui qui est considéré comme peut-être l'esprit le plus fort, c'est Rabbi Meir. Et Meir, il dit lui-même que quand il est allé, il a fait son cursus normal, je pense, et puis il est allé chez Rabbi Akiva, il n'a rien compris. Et il n'a rien compris, donc il est reparti chez Rabbi Ishmael pour réétudier quelque temps chez Rabbi Ishmael. Et seulement après cette période-là, il est retourné chez Rabbi Akiva. Et à ce moment-là, il pouvait suivre l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a donc 24 000 talmidim. Et imaginez, durant un court laps de temps, tous ces talmidim meurent. Ils meurent tous. Il n'y en a pas un qui survit. Ils meurent tous. Et les chachamim de l'époque et à la suite disent pourquoi ils sont, enfin, ils donnent une raison pour leur mort. Shelona agu kavod zebeze. Ces gens-là, ils n'ont pas pratiqué le kavod les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire que lona agu kavod zebeze? C'est quoi donner du kavod? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. En français, donner du kavod à quelqu'un, c'est, je crois, c'est lui donner du poids. Pourquoi est-ce qu'il faut lui donner du poids? Pourquoi on a besoin de donner du kavod à celui-ci, à celui-là? Pourquoi il faut donner du kavod à ses parents, par exemple? Pourquoi ils ont besoin de ça? On doit donner du poids à quelqu'un pour qu'il puisse jouer le rôle qu'il doit jouer, que j'ai en fait, moi qui lui donne, qui leur donne du poids, que j'ai besoin qu'il joue. C'est-à-dire, prenons l'exemple des parents, je dois donner du poids à mes parents pour qu'ils puissent jouer pour moi le rôle de parent. Le rôle de parent nécessite d'être joué à deux, enfin en l'occurrence à trois, mais à deux. C'est un jeu qui se fait. Pour moi, jeu, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est un jeu. C'est fondamental. Le parent, il s'agit, quand on parle de relation parent-enfant, on ne parle pas des enfants en bas âge. Ceux-là, ils n'ont même pas de mitzvah. Sauf qu'éventuellement, il faut les éduquer pour que quand ils auront la mitzvah, c'est-à-dire quand ils seront bar mitzvah, ils sauront quoi faire. Mais il n'y a pas encore de mitzvah à cet âge-là. Le din de le kavod qu'on doit, ou la yira, on a vu cette semaine la yira, qu'on doit à ses parents, c'est quelque chose qui concerne, je ne sais pas, un enfant qui a 50 ans et des parents qui en ont 75. Donc, ce n'est pas un truc pour enfants bas âge à l'égard des parents. C'est toute la vie. Et j'ai besoin que mes parents jouent un rôle de parents. On a besoin, l'être humain, il est construit comme ça, qu'il a besoin, de façon idéale, d'avoir des parents qui jouent leur rôle de parents. Et il n'y a que l'enfant qui peut leur permettre de jouer ce rôle. Parce que on ne peut pas avoir une autorité ou sur quelqu'un si la personne n'accepte pas l'autorité. Parce que ça n'a qu'un temps. Mon père, il peut s'imposer à moi parce que tant qu'il est plus fort physiquement ou économiquement ou intellectuellement. Mais il arrivera un moment où il ne le sera pas, éventuellement, eh bien, c'est fini, il n'y a plus de kavod. Tandis que si moi j'ai compris que c'est mon intérêt qui joue son rôle de parent, on a besoin de cela. On a même besoin que les parents jouent leur rôle de parent quand ils sont morts. La preuve qu'il y a aussi un din de kavod aux parents quand ils sont morts, c'est que quand quelqu'un perd un proche, le deuil dure 30 jours. Ça ne dure pas plus que 30 jours. La seule exception, c'est quand on perd un parent. Ce n'est pas symétrique d'ailleurs. Chas v'shalom, quand un père perd un enfant, le deuil c'est 30 jours. C'est seulement dans le sens où le parent a disparu, il y a encore un din de kavod qui fait qu'on va faire 12 mois, 11, 12 mois, peu importe, de deuil, au lieu d'en faire un seul, 30 jours. Là, il y a 12 mois. Pourquoi? parce que j'ai encore besoin qu'il joue son rôle, même après la mort. Et le roi, il a besoin qu'on lui donne du kavod pour pouvoir jouer son rôle de roi, puisqu'il n'est mêlé que si je l'accepte comme tel. Comment est-ce que je l'accepte? Je manifeste que je l'accepte en lui donnant du poids. Dans un couple, effectivement, il faut que chacun donne du poids à l'autre pour que l'autre joue le rôle que j'ai besoin qu'il joue. Un mari ne peut pas jouer son rôle de mari si la femme ne lui donne pas du poids pour le jouer. Sinon, c'est quoi, la violence ou le taliban, c'est quoi? Et dans l'autre sens aussi. Si le mari ne donne pas de poids à sa femme pour qu'elle joue son rôle, elle ne pourra pas le jouer. Donc, ce digne de kavod, c'est que je traduis par donner du poids. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les talmidei chachamim qui ne se donnent pas de kavod l'un à l'autre. Alors, je crois que quand on parle de l'un à l'autre, c'est peut-être d'un couple, d'une chavruta, si vous voulez, à une autre chavruta. Je ne suis pas sûr qu'ils ne se donnent pas du kavod à l'intérieur de leur chavruta. Mais en tout cas, puisqu'ils sont présentés comme étant 12 000 couples, 12 000 pères, alors d'une paire à l'autre, ils ne donnent pas de kavod. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils ont... Le problème, d'après ma définition, il faut comprendre pourquoi une paire a besoin de kavod de la part d'une autre paire. Pourquoi? Pour développer leur Torah, ils ont besoin de kavod? La réponse est oui. La réponse, elle est oui, ça veut dire la chose suivante. Quand vous étudiez quelque chose, et que vous avez compris quelque chose, il faut pouvoir l'exposer. Ça, c'est dans la Gemara, ils n'arrêtent pas d'exposer. Quand quelqu'un il a une idée, il l'expose. Il la met, l'exposer, on peut vraiment dire, il la pose devant les gens pour qu'elle soit critiquée. Bon, critiquer un peu, parce que, essayer d'objecter pour essayer de détruire ma théorie. Quoi. C'est ça le travail. Je suppose que ces fameuses paires, c'est des gens qui ils se connaissent tous un peu parce que c'est la crème, donc ils ont passé dans les mêmes, on va prendre les termes d'aujourd'hui, ils ont passé dans les mêmes yeshivot. Ils savent, et au bout d'un moment, on sait, lui, voilà, sa façon de prendre les choses, c'est comme ça. Et lui, il prend les choses comme ça. Lui, c'est, il étudie comme, je ne vais pas m'annoncer un cours de femme, donc il apprend comme tel et tel maître, et l'autre comme tel et tel maître, etc. Ou là, il a fait ça, il a fait une synthèse de ces deux-là, etc. Donc, je sais à peu près ce que pense l'autre. Donc, en réalité, la raison pour laquelle ils n'ont pas donné de kavod, c'est parce que je sais ce qu'il va me dire. Je l'écoute pas. Je lui propose pas de l'écouter. J'écoute pas cette paire-là, moi qui suis une autre paire. Parce que j'ai l'impression que je connais. Mais en réalité, quand on expose quelque chose, c'est dans tous les domaines, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, le cas échéant, quand vous exposez quelque chose, d'abord, quand on expose, on arrive à trouver une autre formulation, c'est ça enrichit, vous voyez comment l'autre réagit, même simplement dans les mimiques, dans l'intention, dans son regard, etc. Et puis, quelqu'un peut justement faire une petite remarque, une grande remarque, qui fait que voilà, tout à coup, ah, avec cette remarque-là, je comprends moi-même mieux ce que je disais. où je modifie un peu ce que je disais parce que, ben voilà, c'est maintenant comme ça, c'est comme ça que ça va bien. Ça, c'est ce qu'apporte l'écoute. Et l'écoute, c'est donner du poids. Je te donne du poids pour que tu puisses mieux faire ton jeu, ton travail. J'ai besoin que tu le fasses parce que on est tous intéressés à ce que la Torah soit développée. Et la Torah, elle se développe dans la mesure où chacun va pouvoir apporter sa contribution, faire en sorte que ça aille mieux en quelque sorte. On couvre plus de territoire, on définit de nouveaux concepts, on construit la Torah en permanence. Et chacun d'entre nous a l'obligation de veiller à ce que la Torah soit développée. Peut-être que on n'a pas vraiment une obligation d'étudier par soi-même seulement. On a une obligation de veiller à ce que la Torah soit développée. Donc, si je peux la développer moi-même, j'ai priorité. Mais si je ne peux pas, moi, la développer, mais que je peux aider quelqu'un à développer, je dois le faire. C'est la même chose. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. L'important, c'est que ce qui m'incombe, c'est de veiller à ce que la Torah se développe. En faisant moi le boulot, en faisant faire par quelqu'un d'autre, en faisant les deux, en faisant une partie par l'autre. Donc, en ne se donnant pas du kavod l'un l'autre, ils ont en quelque sorte stérilisé la Torah. Chacun a ce qu'il a et pas plus. Or, il pourrait faire beaucoup plus si l'autre l'écoutait. Si l'autre lui donnait du poids, il serait capable d'en faire plus. Et donc, ils sont morts parce qu'en fait, leur Torah était morte. C'est difficile à comprendre, mais c'était une Torah d'une valeur extraordinaire, mais elle était stérile. Elle était morte. Parce que chacun bloquait l'autre. Et donc ces gens-là ont disparu. Vous imaginez 24 000 Talmidim qui se seraient répandus dans tout Eretz Israël, la crème de la crème, chacun aurait eu sa yeshiva. On peut rêver. Hein. Mais bon, mais ça n'a pas eu lieu. Et Rabbi Akiva, pardon?
Et Rav, c'est pas possible de changer de Avruta?
Non, mais quand on parle de père, j'imagine que c'est les gens qui avaient l'habitude, qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble. C'est comme ça que c'était. Ils pouvaient changer de Avruta, il n'y a pas aucun problème. Mais quand on parle de ces gens-là, c'est les gens qui ont déjà l'habitude, qui ont déjà eu des Avrutot avec d'autres gens, etc. Là, ils ont trouvé, chacun a trouvé sa Avruta, celle avec laquelle il travaille très bien et celle qu'il est. Le bonhomme qu'il est prêt à écouter dans sa discussion, etc. On pourrait imaginer encore pire, c'est que même entre eux, ils ne s'entendaient pas, ils ne s'écoutaient pas, mais ça, on n'est pas obligé d'être si méchant. C'est déjà suffisant s'ils ne s'écoutaient pas l'un l'autre, une paire l'autre. Et donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Et du coup, le clan Israël est définitivement endeuillé. Dans cette période où justement on est en train de construire la Torah, eux à ce moment-là, ils n'ont pas construit la Torah. Ils se sont pas donné les uns aux autres du poids pour construire la Torah.
Et Rabbi Akiva était dépassé?
Alors, Rabbi Akiva, c'est une question que je pose régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Rabbi Akiva ne leur a pas dit? Ils ne sont quand même pas morts tous le même jour. Quand il a vu ce qui se passait, pourquoi il ne leur a rien dit? Là, je ne suis pas sûr de la réponse. Je n'ai pas entendu de mes maîtres de réponse là-dessus, parce que je n'ai pas posé la question, malheureusement, quand j'aurais dû la poser. Et je pense, la chose suivante. Je pense que... Bon, je vais d'abord un peu agrandir la question. Des fois, c'est comme ça qu'on arrive un peu à comprendre. Avraham Avinu et Sarah, ils ont fait beaucoup de guérim. Donc, c'est marqué, Tanafashot Asherasu Becharan, ils avaient des milliers d'élèves. Peu importe que ce soit des milliers, ils avaient beaucoup d'élèves. Et la question que je m'étais posée en son temps, c'est où sont les enfants de ces élèves? Yitzhak, il est tout seul. Il n'y a personne pour faire un foot. Où ils sont? Où sont les enfants de ces gens-là? Il y avait des hommes, des femmes. Ils ont eu des enfants, non? Ou pourquoi la génération d'après, il n'y a personne? Alors, il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Le Midrash dit que les élèves d'Abraham, ils se sont tous appelés Abraham. Les élèves de Sarah se sont tous appelés Sarah. Elles se sont toutes appelées Sarah. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Alors, j'ai interprété le Midrash de la manière suivante. Je suppose que les élèves ont été dans un rapport de fusion avec leur maître, avec Abraham et avec Sarah. Et on ne peut pas transmettre la Torah, ni rien d'ailleurs, dans un état de fusion. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un espace pour transmettre. Donc quand il y a eu fusion, c'était stérile complètement. Ça veut dire qu'ils ont eu des enfants, mais leurs enfants, ils n'avaient pas de parents. Parce que leurs parents, c'était des clones, enfin, ils essayaient d'être des clones d'Abraham et Sarah. Ils n'étaient pas disponibles pour eux non plus. Ils étaient en fusion avec Abraham et Sarah. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas passé à la génération d'après. Ils ont eu des enfants, mais qui n'étaient pas intéressés par ce que ses parents pouvaient leur dire. Ils n'avaient rien à leur dire. Alors là, on peut se demander aussi pourquoi Abraham et Sarah ne leur ont rien dit. Pourquoi ils les ont laissés entrer dans cette relation de fusion quasiment avec eux. Et je crois que il y a des choses qu'on peut pas imposer aux gens, si les gens comprennent pas par eux-mêmes, ça sert à rien. J'ai cette impression-là. L'impression que c'était tellement fondamental, ils n'ont tellement pas compris un instant.
Sur quel site tu es allé pour prendre les billets de train?
Quoi?
Sur quel site tu vas pour prendre les billets de train?
Oui,
SNCF.
Où tu veux aller?
Axelba, on n'a pas pris les billets. Je voulais qu'on les prenne.
Je crois que Rabbi Akiva, qui est le maître de qui considère que Ve'aftal Re'acha Kamocha, c'est un klal gadol batora. Comment ça se fait qu'il leur a rien dit? J'ai l'impression que il a compris que bon, si avec tout ce qu'ils ont appris, ils n'ont pas compris ça par eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Il a laissé les choses aller.
C'est chez Rabbi Akiva qui ne marche pas du tout.
Aussi
les élèves. Je me demande si c'est chez Rabbi Akiva qui ne marche pas du tout. C'est sa transmission qui n'a pas,
marché. Oui, si quelque chose n'a pas marché, c'est possible que Rabbi Akiva était trop génial. Il y a une Gemara problématique. Et Rabbi Akiva, il donne une explication. Et les collègues de Rabbi Akiva lui disent, Akiva, tu ferais mieux d'aller t'occuper d'enseigner dans les questions de Ohalim, des questions de pureté, ou de lèpre, ou de Negaïm, Ve'aolot, etc. Des questions très, très pointues, très techniques, difficiles à comprendre. Là, ton génie serait à l'œuvre. La plupart des gens considèrent que c'est une façon de dire à Rabbi Akiva que ce qu'il dit là, c'est que c'est pas bien, qu'il n'est pas bon. Donc. Bon, moi je pense pas comme ça. Je pense que ce qu'ils lui disent, c'est que ce que tu dis, c'est génial, seulement c'est tellement pointu que c'est dangereux. Et on ne peut pas dire ça à monsieur tout le monde. Quand tu dis des choses tellement dangereuses, alors dis-les à des auditeurs qui viennent écouter tes cours dans Negaïm Ve'aolot, parce que là-bas, c'est seulement la crème de la crème qui peut venir t'écouter. Les autres gens, ils comprendront rien. Donc, personne ne va venir t'écouter dans ces questions-là. Donc, ce que tu dis, c'est absolument génial. Seulement, c'est pas comestible par monsieur tout le monde, en fait. Il me semble que c'est ça la com. C'est pas que Rabbi Akiva, il est mauvais dans les Haggadot, je pense qu'il est au contraire très très bon. Mais par contre, il ne se rend peut-être pas toujours compte de sa génialité et donc que ce qu'il dit peut presque pas être entendu à la hauteur où il le dit, donc les gens vont l'entendre à un niveau plus bas et donc ils vont le déformer et donc ça sera mauvais. Il faut pas. C'est dangereux. Ce que tu dis, c'est dangereux. Et là, c'est possible que même Ve'aftal Rincha Kamocha, dire que ça englobe, c'est un klal gadol, ça englobe tout, c'est compliqué. Comme quoi c'est klal gadol? C'est a priori Ve'aftal Rincha Kamocha, ça touche que les problèmes interpersonnels. Qu'est-ce qu'il y a avec toutes les mitzvot avec Hachem? Mitzvot chez Ben Adam Chavero, c'est inclus dans Ve'aftal Rincha Kamocha. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Ben Adam Lamakom? Bon, ça marche. Alors, si on dit comme ça, si on veut que ce soit un klal englobant vraiment quasiment tout, il faut dire que Re'acha, ça peut englober Hachem aussi. Que d'une certaine manière, HaKadosh Baruch Hu accepte de devenir mon prochain. Si je dis ça, si Re'acha, ça peut être Hachem, alors ça englobe. Et Aftal Re'acha Kamocha, ça englobe aussi les mitzvot Ben Adam Lamakom. Mais c'est très dangereux de dire ça. De dire que Hachem est mon Re'a, il est mon prochain. Bien sûr que probablement à certaines hauteurs, on peut l'entendre. Mais ça ne s'entend pas à toutes les hauteurs. Et donc, si on le dit à des gens qui comprennent pas que ça s'applique pas à cette hauteur-là, ça s'applique qu'à une hauteur plus élevée, bon ben, c'est dangereux. On risque d'entraîner les gens à penser des choses complètement fausses. Donc ça, c'est ce que je pense que Rabbi Akiva, bon, je sais pas répondre à la question, la vérité. Cette question, je l'avais demandé à Thomas Guerre, Rav Volbe, et il m'a fait une réponse qui n'est pas très convaincante. Bon, et puis je n'ai pas insisté, donc je n'ai pas osé insister.
Mais on ne dit pas que toute la Torah se met à l'épée de Rabbi Akiva, donc tout est dangereux. Alors, tout est dangereux.
Non, parce que c'est comme ça, on dit toutes les Mishnayot, c'est Rabbi Meir, alibé de Rabbi Akiva. c'est déjà des élèves qui ont interprété Rabbi Akiva, qui savaient interpréter Rabbi Akiva et qui ont formulé les choses de Rabbi Akiva de telle sorte que ce ne soit pas dangereux, comme tu dis. Ça vient de lui, mais ça a déjà été reformulé un peu par ses grands élèves. Alors, dans cette période-là, on porte le deuil, en quelque sorte. Mais ils ne sont pas morts durant durant les 49 jours. Alors, ça a duré seulement, au bout de 33 jours, ça s'est arrêté. Alors, il y a plusieurs minagim de deuil dans cette période-là. Certains commencent très tôt et finissent plus tôt. D'autres commencent un peu plus tard, ils englobent et peut-être ils font une espèce d'exception le jour de l'Akba Omer et ensuite ils reprennent. Ça s'arrête 3 jours avant, Shavuot, etc. Ça, c'est les minagim. La vérité, c'est que quand on regarde dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est vraiment interdit pendant cette période? Il n'y a que 2 choses. C'est écrit qu'on ne doit pas se marier et on n'a pas le droit de se raser. Couper les cheveux, raser. Par exemple, ce n'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de faire de la musique. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire de la musique. Le Shulchan Aruch, il pense que toute l'année, on n'a pas le droit de faire de la musique. Parce qu'on est en deuil de la destruction du temple. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas répété ici qu'on n'avait pas le droit de faire de la musique. On n'a jamais le droit, d'après lui, de faire de la musique. Mais nous, on a été Mekil et on se permet de faire de la musique le reste de l'année. Mais dans cette période du Homer et dans la période des 3 semaines, on applique la halakha. On n'est pas Mekil. C'est tout. C'est interdit parce que c'est ce qu'on aurait dû faire toute l'année, d'après le Shulchan Aruch. On ne devrait jamais écouter de musique parce qu'on est en deuil. En permanence. Ça, c'est le... Si vous voulez, ça, c'est le... Cet halakha de deuil qu'il y a durant cette période-là. C'est un deuil sur ces élèves parce que c'était justement un moment où c'était exactement le contraire. Quand on est en phase, on est dans un moment d'élévation pendant l'Homère. Donc, ça aurait dû être un moment où, au contraire, il aurait dû avoir du kavod à profusion pour développer encore plus de Torah. C'est le moment où il faut développer la Torah, pour être en phase avec la Torah elle-même, avec ce que nous dit la Torah. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Je crois qu'il ne le faisait pas parce qu'il pensait que c'était inutile. Et il pensait aussi que, non, moi, je sais que lui, il pense autrement, c'est pas ma voie, et moi, il faut que je travaille dans ma voie, en quelque sorte. Il faut que nous, on développe notre façon à nous de comprendre le sujet, de le développer. Donc, on n'a pas le temps à perdre à écouter ce que l'autre dit alors que je sais exactement ce qu'il va dire. La vérité, c'est que non, tu ne sais pas ce qu'il va dire. Parce que lui-même, éventuellement, il ne sait pas exactement tout ce qu'il va dire. Il va profiter de parler de ce que tu vas l'écouter et que tu vas éventuellement réagir ou pas, mais peu importe, il aura lui-même pu exprimer les choses, donc il aura peut-être pu développer les choses. Et si ce n'est pas avec toi, c'est peut-être avec un autre. Et c'est ça qui est gravissime, si vous voulez, qu'on n'ait pas entendu cela. Ils n'ont pas compris ça. Alors, ça reste quand même très difficile à comprendre qu'ils ne l'aient pas compris. Ça reste difficile. Parce que ce n'est pas des petites gens, ce n'est pas des rigolos, c'est quand même les élèves de Rabbi Akiva. Être élève de Rabbi Akiva, ça impliquait qu'on a passé par toutes sortes d'étapes qui ont fait que tu étais qualifié pour devenir élève de Rabbi Akiva. Mais on voit que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que la Gemara, elle raconte que quand Rabbi Akiva est rentré chez lui, il rentre avec ses élèves. Quand il est couvert de gloire, quoi. Et il y a, et sa femme, elle vient à sa rencontre. C'est une vieille dame. Et les élèves, ben, ils la poussent. C'est-à-dire que il n'y a pas de respect. Tu peux te demander pourquoi cette femme, elle vient à la rencontre de Rabbi Akiva. Non, mais qu'est-ce que vous poussez la femme? Et lui, il est obligé de leur dire, mais tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, c'est grâce à elle. Et c'est insupportable. C'est insupportable de voir des gens de cette dimension-là ne pas comprendre, enfin, de traiter les gens comme ça.
Mais ils n'étudiaient pas à Bnei Brak.
Ça veut dire?
C'est un endroit où il n'y a pas de respect, non?
Ben, c'est un problème.
On est tous en kilo. On se connaît déjà, alors.
Le problème, c'est pas tout à fait comme ça, parce que bon, c'est une... Même si c'était pas son épouse, il y a une vieille dame qui vient, elle a peut-être une question à poser, pourquoi il faut la bousculer, c'est comme ça. Au point qu'il doit leur dire, attendez. Ils n'ont pas d'imagination de penser que cette femme peut être sa femme. Non, c'est pas... Je ne sais pas. Tout ça, ce sont des choses un peu difficiles à comprendre.
Rav.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on n'est pas en deuil des élèves de Rabbi Akiva, mais du manque d'élévation qu'ils ont raté et que c'est un moment au contraire très propice à l'étude de la Torah et à cette élévation qui apporte de la joie. Et donc le deuil, c'est on est en manque de cette proximité, et c'est là-dessus qu'il faut plutôt porter le deuil que sur les élèves de Rabbi Akiva.
Non, mais on porte le problème, c'est que le deuil, il est là pour nous dire ce qu'on a perdu. Il faut aussi savoir la chose suivante, c'est que quand quelqu'un est en deuil, vous voyez, si quelqu'un perd un proche, il faut savoir que c'est Hachem qui décide. Et que quand Hachem enlève une personne dans une certaine société, dans une certaine famille, etc., il a évidemment tenu compte de tout ce que cette absence allait causer à chacune des personnes qui est en relation avec la personne qui va disparaître. C'est toute une question, savoir le deuil, il est pourquoi. Est-ce que il est parce que en vérité, pourquoi est-ce que je dois, parce que faut que je me reprenne, parce que si j'avais été meilleur, si j'avais pas mérité cette souffrance, disons, la personne ne serait pas morte. D'accord? Et pour qu'elle meure, ça veut dire que à un niveau, alors c'est pas de façon élémentaire au sens de, on n'est pas tous des assassins parce que d'accord. Mais quelque part, si on est en deuil de si le clan d'Israël pour l'éternité est en deuil de cette mort des élèves de Rabbi Akiva, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose à l'échelle du clan d'Israël qui doit être révisé, puisque on n'a pas eu ça. C'était porteur de trucs absolument impensables, extraordinaires. Et ça ne s'est pas fait, c'est qu'on n'a pas mérité que ça se fasse, ça veut dire. Donc le clan d'Israël, il est, pour l'éternité, on est un clan d'Israël qui n'a pas bénéficié de ce qu'aurait dû normalement donner 24 000 élèves de Rabbi Akiva. ça aurait changé la face du monde, bien sûr. Parce qu'en fait, Rabbi Akiva, après eux, il est allé vers le sud et il a pris 5, il y a une version en 7, mais 5 élèves. Et c'est ces 5 élèves-là qui ont transmis la Torah à tout le monde. Nous, on vit sur ce que ces 5 élèves de Rabbi Akiva ont donné. Ce qu'il a pu leur donner à eux et qu'ils nous ont répercuté. Donc imaginez s'il y avait eu 24 000. Là, je n'ai même pas pensé.
Vous dites qu'on n'a pas mérité que ça se fasse, mais on aurait mérité d'avoir la Torah. Donc, on était quand même, nous, à notre niveau, on était le Klal dans son ensemble, il avait…
C'est pas la même époque. Hein. Rabbi Akiva, ce n'est pas au moment du Sinaï. C'est-à-dire qu'on est à… Il y a un développement qui, à partir du Sinaï, on a développé la Torah, elle s'est développée, elle s'est enrichie, tout ce que vous voulez. Ça a fini par produire Rabbi Akiva. Il avait des maîtres, Rabbi Akiva et tout. Ils ont produit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Kadosh Baruch Hu nous a donné Rabbi Akiva, qui était quelque chose d'extraordinaire, que même Moshe Rabbeinu, quand il a vu ce que était Rabbi Akiva, il a dit à Hachem, mais pourquoi tu donnes la Torah par moi, donne-la par lui, il est beaucoup mieux que moi. Et Hachem, tout ce qu'Hachem lui a dit, c'est tais-toi. Je me passe de tes commentaires. Tais-toi. Donc, là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. On ne comprend pas pourquoi Rabbi Akiva a tellement souffert, alors que, bon, ça, tout ça, on ne comprend pas. Et on ne comprend peut-être pas vraiment pourquoi effectivement, il y a eu possibilité qu'il y ait tellement d'élèves extraordinaires et que tout ça soit tombé complètement à l'eau. C'est presque impensable. Quoi. On pourrait dire que ça ne marche pas parce qu'il y a trop de monde. On ne peut pas gérer quand il y a tellement de monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire que Rabbi Akiva avait tous ses élèves, parce que dans le texte, c'est marqué, c'est pas qu'il avait 24 000 élèves dans un campus, il y avait 24 000 élèves. C'est marqué qu'il avait, du nord au sud, il y avait 24 000 élèves. Et là, c'est presque pas compréhensible, je veux dire. Il y a quelque chose qui nous dépasse, enfin qui me dépasse complètement, je ne comprends pas grand-chose à cette affaire-là, mais comme ça revient toutes les années, on essaie de dire des choses, et je ne sais pas du tout si c'est pertinent ce que j'ai dit, c'est ce que je pense, du mieux que j'arrive à penser maintenant, mais bon, peut-être que ce n'est pas ça du tout, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu de véritable explication, et je ne peux peut-être pas poser les bonnes questions au bon endroit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire 24 000 élèves. Je ne sais pas ce que ça veut dire 24 000 élèves. Comment est-ce qu'on était élève de Rabbi Akiva? C'était quoi élève de Rabbi Akiva? C'est quoi? C'est des gens qui ont entendu son enseignement et ensuite ils sont allés habiter ailleurs, ils ont continué d'étudier et tout. Sur le modèle de Rabbi Akiva, c'est quoi? Rabbi Akiva, il ne donnait pas des cours par Skype ou par Zoom. Hein. C'était accessible à tout le monde d'un bout à l'autre d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, les gens circulaient beaucoup, ils allaient d'un endroit à l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va s'arrêter là. On reprendra Emir Tsachem, le Maral, la séance prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon tout.
J'avoue à toi, raconte-moi.
Merci, j'avoue à toi.
Bonsoir. Bonsoir.
Yoshev,
c'était Revian Messel Shaddai Shlonan. Omar Ladonoï Marchi Mesulati Urab Tabu. Kiwat Silecha mi Parkyakush Medevaravos. Et Brasso Yasser Lach, le Tarat Knafab Terce, Sina Vesoche Hamito. L'Ossi Hamil Paral Laila Mirasia Fuyaman. Il déverbe au Felia alors, mais qu'était via Shoud Zorain. Il Paul Missidecha Elef ou Ravava Minecha Elecha Louigash. Rak Benecha Sabit ou Shlomat Roshem Tire. Qui a ta donné Marchi Elion Santame Onecha. L'Ossi Une Elecha Rav Negal ou Ekrav Balecha. Qui m'a la chave, il savait la riche mort.